Bonjour, c'est Thomas Proutot. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Un épisode spécial puisque je reviens aujourd'hui sur un événement qui a marqué l'année 2022 et dont on va reparler à coup sûr en 2023 et au-delà. J'ai choisi de vous parler des cold cases et de la création d'un pôle spécialement dédié à ces affaires par la justice française. Les cold cases, vous le savez, ce sont ces affaires criminelles non résolues qui laissent des proches de victimes sans réponse pendant parfois 20 ans, 30 ans, 50 ans pour les plus anciens. 2022 a donc vu une petite révolution avec l'installation au sein du tribunal de Nanterre de juges d'instruction entièrement dédiés à certains de ces dossiers. Des dossiers jusqu'ici mêlés au flux quotidien dans les tribunaux de France. Quel espoir pour les familles? Quelle perspective pour 2023? Va-t-on enfin percer le mystère de ces crimes pour certains très célèbres dont on vous parle régulièrement sur RTL? C'est le thème aujourd'hui de ce Focus.
Un nom sur un portrait robot, 35 ans après son premier meurtre, le grêlé a enfin été identifié.
Va-t-on enfin résoudre le mystère de la tuerie de Chevaline?
7 jours, 7 énigmes, notre série événement toute la semaine sur RTL.
Les proches d'Estelle Mouzin veulent y croire à un dénouement 17 ans après.
Et pour évoquer ce Paul Colquay, nous avons convié dans le studio de Focus deux des meilleurs connaisseurs de la question, l'avocate pénaliste Corinne Herman, qui s'est battue pendant des années aux côtés des familles pour obtenir cette avancée. Vous nous direz notamment si le pôle est à la hauteur de vos attentes. Avec nous également le commissaire divisionnaire Franck Danerolle, patron de l'Office central de la répression des violences aux personnes, le service central de la police judiciaire spécialisé justement dans les cold cases et qui va être étroitement associé au nouveau pôle judiciaire. Avec nous également Guillaume Chiez, notre enquêteur à nous ici à RTL. Tu vas nous éclairer sur un sujet que tu connais bien et que tu suis au quotidien. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Alors on va commencer par une très courte présentation. Le pôle cold case a été officiellement inauguré le 1er mars dernier au sein du tribunal de Nanterre. Je dis officiellement parce qu'en réalité ça n'a pas démarré tout de suite. Le 1er mars c'était l'installation de la juge Kéris, magistrate réputée, ancienne doyenne des juges d'instruction parisiens, à qui a été confiée la mission de mettre en place ce pôle cold case. Depuis mars, deux autres juges d'instruction ont été nommés. Ils sont désormais trois, secondés par trois greffiers. Et le travail a commencé car le pôle cold case s'est d'ores et déjà saisi de 52 affaires qui ont donc quitté les tribunaux où elles étaient instruites jusqu'ici et d'autres vont suivre, des dossiers qui vont être repassés au tamis en quelque sorte pour trouver peut-être le fil qui mènera au corps des disparus ou aux auteurs des crimes non résolus. Alors d'abord Guillaume, je rappelle que tu es spécialiste des cold cases ici à RTL au sein du service police-justice. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots quels sont justement les critères retenus, c'est quoi un cold case pour le nouveau pôle judiciaire?
Alors d'abord, ce sont des dossiers criminels. On parle de meurtres, de viols, d'actes de torture et de barbarie ou de disparition. Des dossiers complexes sur lesquels les enquêteurs sont arrivés dans une impasse. Après, contrairement aux idées reçues, un cold case n'est pas forcément un vieux dossier. Le législateur a défini que toute affaire qui avait plus de 18 mois, un an et demi, pouvait être un cold case. Enfin, ça peut être des affaires qui présentent un caractère sériel, comme des viols ou des meurtres en série, avec chacun un potentiel auteur commun.
Est-ce que tu peux nous citer quelques affaires parmi les plus célèbres qui sont déjà entre les mains de ces juges du nouveau pôle cold case?
Oui, on peut déjà parler de l'affaire de Chevaline, ce quadruple meurtre il y a 10 ans en Haute-Savoie qui reste un mystère total. Il y a l'affaire Paquita Parra, retrouvée morte à Angoulême en 1998, les disparus de la CIS. Il y a aussi le grêlé François Vérov, cet homme qui pendant des années à violer et tuer en région parisienne, même s'il s'est suicidé l'an dernier. L'enquête reste ouverte. La plus vieille affaire du pôle a bientôt 50 ans. Elle est moins connue que les autres. Il s'agit de la disparition de la famille Méchineau le soir de Noël en Charente en 1972. Et puis évidemment, il y a les tueurs en série comme Jacques Rançon et Michel Fourniret.
Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, c'est l'un des plus grands tueurs en série français, mort de maladie l'an dernier. Un criminel hors norme, condamné de son vivant pour 8 meurtres et assassinats commis entre 87 et 2003. Mais pour combien de crimes en tout? C'est l'une des questions qui va tarauder ce pôle. Corinne Herman, vous êtes avocate pénaliste. Vous accompagnez les familles de plusieurs victimes de Michel Fourniret, certaines reconnues, avouées, d'autres encore présumées. Et c'est notamment au travers de ces dossiers Fourniret que vous avez compris l'absolue nécessité d'une approche spécifique des tueurs en série. Vous avez écrit des livres sur la question. 9 de vos dossiers ont déjà rejoint le pôle cold case de Nanterre. 9, c'est bien ça,
hein? À peu près, oui.
À peu près. C'est-à-dire à quel point vous connaissez le sujet. Ce pôle dédié au cold case. C'est une victoire personnelle.
Ah oui, c'est une victoire personnelle, c'est une victoire d'abord des victimes, des familles de victimes qu'on défend et qu'on accompagnait, parce que la question se posait déjà pour l'affaire Émile Louis, qui était le tueur des disparus de Lyon. On est rentré dans ce dossier 20 ans après les faits, et on avait toutes ces problématiques qui se posaient à nous vis-à-vis des juges d'instruction, des procureurs qui voulaient pas réouvrir ces dossiers, et on a déjà ressenti le besoin de ce pôle, on y pensait déjà à cette époque-là. On en a reparlé autour de Michel Fourniret et d'autres tueurs, parce qu'on a ces difficultés pour reprendre ces dossiers-là, pour se faire entendre, pour faire entendre la voix des familles qui veulent qu'on étudie leurs dossiers, qu'on les instruise.
Et il a fallu près de 10 ans, même plus, pour
plus
que
de,
la justice
plus de 20 ans, plus de 20 ans,
résultat, oui.
Oui. Plus de 20 ans où on est allé dans les ministères, on a rencontré tous les chargés de mission, collaborateurs des ministres de la justice, y compris de l'intérieur, pour essayer de faire entendre cette voix-là. Et il a fallu tout ce temps-là, il a fallu finalement l'affaire Fourniret pour ouvrir un petit peu, l'affaire aussi du Grélé, pour ouvrir les esprits.
Pourquoi est-ce que c'est crucial pour vous ? Pourquoi c'était crucial pour vous et pour les familles, bien entendu, d'obtenir la création de ce pôle ?
Parce que ces dossiers sont abandonnés, parce que les familles sont tenues hors des tribunaux et de leurs droits à avoir rencontré un juge d'instruction, ou en tout cas à ce qu'on étudie leurs dossiers, parce que dans ces dossiers, il y a des séries criminelles, donc des tueurs en série, qu'il faut aussi intercepter, parce que c'est un droit d'avoir une réponse de la justice, quand bien même elle n'est pas celle qu'on attendait, qu'on a le droit à la vérité, qu'on a le droit à être entendu par des magistrats, et que ce combat vis-à-vis des magistrats était tellement difficile, tellement dur, tellement lourd, qu'on perdait plus de temps à essayer de convaincre un magistrat qu'à lire le dossier. Et il me semble quand même que le béaba, c'était quand même de se consacrer totalement à ces dossiers, et d'avoir des juges spécialisés, ça va nous permettre aussi de... Ils sont dégagés de toutes leurs obligations, ils vont pouvoir se consacrer à ces dossiers.
On va y revenir, oui, justement, sur l'approche nécessaire et le temps nécessaire, puisque c'est une des clés la plus importante. Je vais me tourner maintenant vers le policier. Le commissaire Franck Danerolle, chef des enquêteurs de l'OCRVP, on le disait, qui est avec nous autour de la table. Vous allez être appelé à travailler sur certaines de ces affaires non résolues. On va tout de suite être très concret. Beaucoup de ces cold cases sont très anciens. Guillaume nous le disait, le plus vieux dossier dont le pôle s'est saisi a 50 ans, la disparition d'une famille entière le soir de Noël 1972. Comment est-ce qu'on travaille sur des dossiers aussi ancien, qu'est-ce qui va permettre d'avancer ? Qu'est-ce qu'on peut encore aller trouver ?
Bien, l'OCRVP a une certaine pratique en la matière, puisqu'en fait, la création de l'Office date de 16 ans. Et donc, nous réjouissons, nous aussi, de la création de ce pôle, qui permettra d'avoir, effectivement, des magistrats spécialisés et qui suivront ces dossiers sur le long terme. Alors, pour nous, comment on aborde un dossier de type là ? Bien, en fait, il y a une méthodologie qui permet d'abord de relire complètement le dossier. En fait, le regard qu'apporte l'enquêteur de mon office, qui n'est en général pas l'enquêteur qui a été premier saisi, c'est un regard nouveau, un autre regard, et un regard expérimenté, bien sûr. Des fois, on arrive aux mêmes conclusions, mais souvent, on va se rendre compte qu'il y a des éléments qu'on aurait aimé creuser. Ensuite, on va recourir à l'analyse criminelle. C'est un procédé qui consiste, à l'aide de logiciels, à intégrer dans une base de données les éléments de l'enquête, par case, en fait, et on va se rendre compte que, par exemple, si 100 voisins ont été entendus, il en manquait un qui pourrait avoir un témoignage clé.
C'est déjà arrivé ça, le voisin oublié qu'on a oublié d'entendre,
oui,
et qui va donner un élément décisif.
Ça arrive bien sûr régulièrement. Un exemple très concret, vous avez un meurtre qui arrive à 20h, vous allez taper à la porte de tous les voisins pour faire une enquête de voisinage. Il suffit que le voisin a peut-être vu quelque chose d'intéressant avant les faits, mais est parti au moment où nous tapons à sa porte. On va retaper à sa porte le lendemain et le surlendemain, mais au bout de plusieurs semaines, il est possible que d'autres priorités se présentent, et donc cette voisin ne sera jamais entendu. Donc cette analyse criminelle permet de ne pas passer à côté d'éléments d'investigation qui ne sauteraient pas forcément aux yeux des enquêteurs avertis.
Dans les nouvelles techniques, on ne va pas toutes les passer en revue. Quelles sont celles qui sont les plus utiles aujourd'hui, je dirais, par rapport à cette volonté judiciaire d'aller résoudre des vieilles affaires ?
Toutes peuvent être utiles, en fait. Il faut considérer qu'on a une palette d'outils devant nous, par exemple des psychocriminologues. C'est très important d'avoir ce regard-là, ce ne sont pas des policiers, mais ils ont un regard aussi sur la scène de crime, sur le profil de l'auteur, qui peut permettre d'ouvrir des champs d'investigation qui n'avaient pas été envisagés par les policiers. Et puis bien sûr, la police technique et scientifique, qui a permis de faire d'énormes progrès. On dit que c'était une révolution, moi je pense qu'on est encore dans la révolution scientifique, où on peut encore avoir année après année des progrès, et donc un scellé. Il faut le considérer tel qu'il a été traité il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais même il y a 4-5 ans, parce que les techniques évoluent tellement qu'il faut pouvoir les reprendre en compte régulièrement. Et donc, c'est tout un travail. On va le faire une première fois, une seconde fois et une troisième fois jusqu'à ce qu'on est lucide.
Sur quelle technique, Corinne Hermann, vous attendez le plus d'avancées peut-être ces prochaines années?
Alors, sur toutes les nouvelles techniques de traitement de scène de crime, de l'image de la scène de crime qui a évolué. Aujourd'hui, on conserve des images beaucoup plus précises. On peut, j'ai envie de dire, c'est pas le bon terme, se promener sur la scène de crime sans y être, avec des images...
Reconstituer véritablement en 3D et aller voir des choses qu'on ne pouvait pas voir.
Constituer de vieilles scènes de crime, nous on l'a fait sur une scène qui a 36 ans en images virtuelles et donc on voit bien le processus, le déplacement du criminel sur la scène de crime par les traces de sang, c'est assez impressionnant comme résultat. Il y a évidemment les évolutions des empreintes génétiques, des analyses de traces de sang, enfin il y a tout évolue très vite et tout peut être mis au service d'un dossier très ancien.
Il n'y a pas que la preuve ADN, celle dont on parle mais qui a quand même permis des avancées spectaculaires dans le dossier Estelle Mouzin.
Oui, dans d'autres dossiers. C'est très technique et très compliqué. Tous les dossiers ne s'y prêtent pas. Ça demande des fois de longues expertises. Mais oui, à l'époque, pour la plupart des affaires qui ont 30 ans, on n'avait pas les empreintes génétiques. Donc on peut retravailler dessus. D'où l'intérêt de conserver les scellés. Et je pense que ce pôle va nous amener enfin une loi sur les scellés. Parce que je pense que c'est la logique de conservation des scellés. Je dis toujours, on a une conservation du Moyen-Âge avec des techniques qui sont futuristes. Donc, ça ne peut pas coller. Ça peut pas... Et des fois, un seul scellé suffit.
On l'a dit, la résolution des cold cases, c'est peut-être aussi et d'abord avant tout une affaire de temps, vous le disiez tous les deux, du temps pour lire les dossiers, pour réfléchir, pour fermer des portes. Corinne Hermann, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret de grande affaire criminelle, d'affaire criminelle connue, qui a été résolue justement à ce travail patient de rapprochement, de relecture et d'obstination? Vous aviez en tête une des affaires sur lesquelles vous avez été aux côtés de la famille.
C'est l'affaire Isabelle Ménage. C'est une jeune femme qui est tuée en 86, à côté d'Amiens, qui est retrouvée dans un état déplorable et qui est une affaire qui va être fermée très rapidement, abandonnée, les pistes vont être abandonnées très rapidement. Et c'est la résolution des affaires de Perpignan, le tueur de la gare de Perpignan qui va être identifié au bout de nombreuses années. C'est déjà un cold case en soi, grâce à une trace de sang qui est découverte avec la volonté des policiers de résoudre cette affaire et des magistrats qui n'ont jamais lâché ce dossier. Et Jacques Ranson va donc être identifié par cette trace ADN, cette empreinte génétique en 2014. Et tout de suite, moi, je m'intéresse à lui parce que dans la région d'Amiens, nous avons 5 affaires non résolues. Et donc, qui dit tueur en série, dit forcément un parcours criminel. On savait que dans la région d'Amiens, il avait été condamné pour un viol avec violence, avec des violences terribles sur sa victime. On savait qu'il y avait d'autres affaires où il n'avait pas été poursuivi, mais qu'il avait agressé des jeunes femmes à cette époque-là. Il habitait à 5 km des lieux, le mode opératoire pouvait correspondre, donc on a tout fait pour essayer d'intervenir pour cette famille dans ce dossier probablement prescrit à l'époque pour tout le monde et qui avait été abandonné depuis plus de 25 ans.
Et vous avez réussi à obtenir cette...
Alors j'ai obtenu la procédure qu'on n'avait pas, j'ai obtenu les quelques photos de la scène de crime et là il s'avère que... Enfin, évidemment qu'il faut toujours se poser des questions et travailler après, mais pour l'avocate que je suis, il n'y a pas photo. Les blessures qui ont été infligées à Isabelle Ménage sont rares. Moi, en 27 ans de carrière, je ne les ai jamais vues parce que évidemment il y a éventration, il y a des coups, enfin des choses terribles et ça correspondait tout à fait
au
plaid qui avait été retrouvé sur les victimes de Perpignan.
À tel point que vous avez porté ce dossier qui a été porté jusqu'à la cour d'assises et en appel, je crois aussi.
En appel, il a été condamné définitivement, il n'est pas allé en cassation. Ça fait de lui, selon la définition américaine, un tueur en série aujourd'hui. Et justement, le pôle va reprendre son parcours puisqu'il y a un cas qui mentionne régulièrement, qui ne figure pas parmi les victimes qu'on a identifiées. Il aurait infligé des blessures à une victime, il en parle. On sait qu'elle ne fait pas partie des victimes qui ont été identifiées. Donc, c'est intéressant aussi que les juges apprennent de ces tueurs en série en faisant leur parcours.
Alors, justement, vous avez pris un tout petit peu d'avance sur le thème suivant qu'on allait aborder, qui est très important. On a dit le temps, la croyance, l'obstination, mais aussi parfois des outils. Et le Paul Colcay, c'est un nouvel outil, justement, qui est appelé pour le grand public parcours de vie ou parcours criminel. L'idée semble toute simple. Vous l'avez déjà un petit peu abordé, c'est non pas de partir d'un crime précis ou d'une victime, mais au contraire d'un auteur déjà connu, d'un tueur en série presque déjà connu, c'est pas le cas pour tous, mais déjà donc définitivement condamné, pour voir s'il a pu croiser la route d'autres victimes. Donc justement, on cherche l'assassin. On va prendre un exemple très précis dont chacun évidemment a entendu parler ici, c'est Nordal Lelandais. On le prend parce que le Paul Cold Case a déjà été saisi justement d'un parcours de vie. Le maître chien, vous savez, a avoué non seulement l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys en août 2017, mais aussi celui d'un jeune militaire, le caporal noyé, quelques mois plus tôt. Il a été condamné à la perpétuité. Guillaume, tu connais parfaitement son histoire. Il y a des zones d'ombre dans le parcours d'un individu comme Nordal Lelandais, des angles morts où pourraient se dissimuler d'autres victimes.
Exactement, et c'est là où le parcours de vie est très intéressant, en fait, vraiment ce que tu disais. On ne va pas partir des faits, on va partir de l'auteur, en fait. Suivre ce qu'il a fait, on va regarder les différents endroits où Lelandais a vécu, les lieux qu'il a fréquentés dans sa vie, ses habitudes, ses différents emplois. Et là, le but, c'est de voir si des dossiers non résolus peuvent être mis en lien avec lui. Les enquêteurs se posent notamment des questions sur deux disparitions à un an d'intervalle au Fort Tamier lors d'un festival de musique que Nordal Lelandais fréquentait lui aussi, ou encore sur la mort d'un homme en Isère en 2012, 5 ans avant le meurtre de Maëlys. Bref, les enquêteurs ne se disent pas « Tiens, voici une affaire, on va chercher le coupable », mais là, ils s'intéressent à un auteur connu, Nordal Lelandais en l'occurrence, et ils se demandent s'il a pu faire d'autres victimes.
Donc on va aller reconstituer encore de façon plus détaillée, presque chaque jour de sa vie, pour caricaturer un petit peu.
Ses emplois, ses hobbies, les gens qu'il fréquentait, les lieux qu'il fréquentait, et tout ça en fait va être mouliné, passé dans la machine. En fait, ce qu'on disait, ça fait partie de l'analyse criminelle maintenant.
Franck Danerolle, vous allez peut-être nous faire une révélation, être saisi de parcours de vie. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne pouviez pas faire avant ?
Eh bien, on a effectivement déjà deux parcours criminels en compte dans le service. En fait, les parcours de vie, on en faisait déjà. Maintenant, il y a un nouveau cadre d'enquête, l'enquête sur parcours criminel.
C'est ça qui est nouveau, voilà. Et ça, c'est important.
Et ça, c'est important parce qu'en fait, ces parcours de vie qu'on faisait auparavant, on les faisait assez naturellement. Les policiers, quand ils interpellaient, ils identifiaient un auteur et qui était impliqué dans un fait qui avait des marquages inquiétants, des marquages qu'on dirait sériels, avec des éléments qui pouvaient laisser à penser qu'il avait peut-être déjà commis de tels faits. On s'intéressait au parcours de l'individu pour mieux le comprendre, mieux le connaître, bien sûr. Par contre, on était limité par le temps. Une personne qui était interpellée, une personne qui est mise en examen, il faut à un moment la juger. Et donc, cette limite de temps faisait qu'on ne pouvait pas aller au bout nécessairement des investigations sur le parcours de vie de cet individu. Aujourd'hui, on va avoir le temps. On va vraiment s'intéresser à son parcours intégralement. Et puis également, un travail important qu'on est en train de réaliser, établir la liste des faits non élucidés qui peuvent être rapprochés de cet auteur. Parce qu'il faut être capable de faire des comparaisons précises et avoir une idée exacte des faits d'agression sexuelle, d'homicide, qui ont pu être commis dans un passé des fois lointain, et pouvoir faire des rapprochements efficaces entre ce parcours de vie et ses faits criminels.
Alors, c'est une question peut-être un peu naïve, mais il n'existe pas de liste de faits non élucidés.
Alors, si, on a une mémoire criminelle, mais en fait, c'est un sujet important, ça. La mémoire criminelle, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que Maître Herman et les magistrats du pôle crime sériel et non élucidé s'accorderont avec moi pour le dire. La mémoire criminelle, c'est un enjeu. On a des archives, mais au plus le temps s'écoule, moins les archives sont précises. Et alors, voilà, il est important d'arriver à constituer cette mémoire criminelle, c'est un travail collectif.
Corinne Herman, vous avez aussi milité pour ce parcours criminel, pour cette façon d'aborder les tueurs en série, les crimes sériels. Vous avez une expression, chaque tueur en série a un chiffre noir.
Oui, c'est le fameux chiffre noir des tueurs en série qui a été, c'est d'abord les Canadiens, les Américains qui en ont parlé en premier, c'est-à-dire que on connaît une liste, on connaît un certain nombre d'affaires, mais il y a toute une série d'affaires qu'on ne connaît pas, qu'il va falloir aller chercher. C'est pour ça que le parcours criminel, le parcours de vie d'abord, parce que c'est le parcours de vie qui nous donnera le parcours criminel, est important. C'est-à-dire que ce chiffre noir, il existera toujours, faut être très clair. On connaîtra pas tous les faits qu'ils ont commis et toutes les tentatives, parce que souvent on a les victimes, mais il y a toutes les tentatives. Tous les cas qui ont échoué, de victimes qui n'ont pas forcément parlé. On n'aura pas tout le parcours, mais on peut en tous les cas apporter des réponses à certaines familles. On peut aussi éviter des instructions qui sont ouvertes pour rien dans certains tribunaux, alors qu'on pourrait tout regrouper sur le pôle. Et on sait que c'est ces auteurs-là, donc c'est plus facile de les résoudre. Ça laissera de la place pour les autres dossiers. Et puis, c'est important, on a un petit territoire. Donc c'est important qu'on ait connaissance de tous les dossiers non résolus. Et cette liste-là, on la demande depuis longtemps, elle va petit à petit se mettre en place avec les policiers et le pôle. Voilà, on ne sait pas combien d'affaires non résolues on a en France. On sait combien sont sélectionnées, ça c'est autre chose. Et petit à petit, ça va. Je pense qu'on va pouvoir avoir la liste de ces affaires et trouver dans cette liste aussi des correspondances par les modes opératoires. Il faut aussi apprendre les modes opératoires des récidivistes. Je dis toujours qu'un tueur en série, il a commencé très tôt, il a un parcours criminel, il devient professionnel du crime, et donc il va commencer par des actes moins graves, puis il va avoir des actes beaucoup plus graves jusqu'à l'ultime, et il va falloir qu'on reconstitue cette série-là. Donc le chiffre noir, par exemple pour Fourniret, on n'aura jamais toute la liste, on sait que sur 10 ans, on a un vide. Il disait lui qu'il tuait deux fois. Voilà, la fameuse période blanche, on est dans les couleurs hein, dans ces dossiers, mais bon, la fameuse période blanche. On sait qu'il y a 2-3 crimes qu'on va peut-être pouvoir retrouver, mais bon, on n'aura pas tous ces crimes-là, on n'aura pas tous ces faits-là. Lui, il nous dit qu'il tue 2 fois par an minimum. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça semble quand même correspondre à peu près à une réalité.
Il y a aussi l'extraordinaire enquête sur le grêlé, François Vérov, l'ancien gendarme.
Le grêlé aussi, il faut savoir.
Combien de victimes aujourd'hui reconnues? Combien de
Alors ça a varié, donc j'ai plus le chiffre exact. Nous, on en représente 2. Mais voilà, il y en a d'autres. On en a une où on ne sait pas si c'est lui, quelqu'un d'autre. D'où l'intérêt aussi de faire ses parcours, c'est de les connaître beaucoup mieux, de savoir où se trouver, quel véhicule. Vous savez, il n'y a pas que le fait de savoir ce qu'il faisait, où il travaillait, où il se trouvait, quel véhicule, comment. Enfin voilà, ce sont des enquêtes policières quand même importantes, un peu à rebours. C'est un peu à l'encontre de notre droit. C'est ce que j'explique souvent au jury. C'est un peu anglo-saxon. C'était une demande qu'on avait faite dans plusieurs livres et dans plusieurs courriers au ministère. Parce qu'on a, avec Didier Seban à l'époque, on a travaillé sur, je pense qu'on est le cabinet qui a affronté le plus de tueurs en série. Et on voit bien qu'on ne connaît pas ces tueurs en série, qu'on sait pas le faire. Donc on pourra réduire ce chiffre. On pourra pas avoir tout, je pense.
Alors, on va pour conclure, se tourner vers 2023. On l'a souligné, le pôle Cold Case commence à peine son travail. Corinne Hermann, vous voyez les juges du pôle presque chaque semaine. Vous avez 9 dossiers. Franck Danerolle, vous les voyez aussi souvent. Est-ce qu'il y a des dossiers qui pourraient avancer vite, très vite?
C'est embarrassant. Non, je peux pas me permettre de communiquer sur ces éléments-là, mais auprès des juges d'instruction du pôle, comme auprès d'autres juges d'instruction, hein, puisque c'est pas les seuls à travailler ces faits-là, il y a toujours l'espoir des enquêteurs. Les enquêteurs, ils sont portés par cet espoir-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, on tente, on innove, on essaye. Et donc, on a très souvent de l'espoir. Je dirais aussi, malheureusement, très souvent des déceptions. Mais tout le mérite des enquêteurs de l'OCRVP, c'est de se relancer, de ne pas s'arrêter à un échec et de se relancer systématiquement. Mais il faut aussi penser aux policiers de demain qui auront besoin qu'on ait fait tout le nécessaire pour qu'ils puissent traiter avec les technologies de demain les affaires de maintenant.
Les formations, quoi. Ouais. Donc bien les former pour cela. Corinne Hermann, vous avez espoir dans certains dossiers peut-être un en particulier.
Ah, j'ai espoir dans certains dossiers, mais je veux pas non plus dévoiler ce qui se profile. Il faut savoir que ce pôle n'a pas un an de vie. Sur des dossiers qui avaient des fois 30 ans, qui ont eu une longévité dans l'échec très longue, il faut du temps pour redresser les choses, pour retrouver les choses. Puis il faut faire évoluer les mentalités, à la fois des policiers, des gendarmes, mais aussi des magistrats, pour qu'on ait aussi, dans les différents tribunaux français, cette envie de reprendre les dossiers, de les préserver, de préserver les de préserver les procédures, d'entendre les victimes dans ce qu'elles ont à demander, parce que nous, on affronte en tant qu'avocats, et je vous assure qu'on a l'impression d'être des fois les VRP, à la fois de la justice et des familles, des non-lieux, des refus de transmettre au pôle. Il va falloir faire évoluer les mentalités, mais on croit en ce pôle, il a quelques mois, il faut laisser le temps à ce pôle de s'ouvrir et d'avoir de premiers résultats.
Alors, on a dit beaucoup de bien de ce pôle, de l'espoir que ça représente pour les familles. Peut-être un regard un peu critique quand même, vous connaissez bien. Trois juges d'instruction dont on croit savoir qu'ils ne sont pas encore tout à fait d'ailleurs à plein temps. Est-ce que c'est assez au regard de la masse de travail, ou vous dites déjà il faut aller plus loin?
Nous, dès le départ, on pensait qu'il fallait 5 magistrats, mais c'est encore une fois un pôle en construction. Déjà, il a le mérite d'exister, c'est une avancée incroyable, ça va changer notre droit, nos pratiques, ça va tout changer, y compris pour nous avocats, donc il faut lui laisser le temps de s'installer. Néanmoins, on a 2 magistrats qui sont pas à 100%, on n'a qu'un seul magistrat qui est Madame Kéris, qui est à 100% à son poste, et depuis septembre, on sait que ces magistrats, les autres magistrats ainsi que les greffiers ne sont pas à 100% à leur poste. Ça n'est pas possible de commencer à travailler de cette façon-là, mais moi j'ai envie de donner un petit coup d'espoir à ce pôle en disant il va se construire, il faudrait plus de magistrats, il faut aussi que les magistrats puissent travailler ces dossiers dans le confort, mais il faut aussi qu'ils aient une conscience, je dirais, de la nécessité possibilité de recevoir humainement les victimes et de les entendre, parce que c'est une autre façon de travailler. Il y a des relectures au niveau des policiers, il y a une façon de revenir sur quelque chose qui a été fait, de le regarder autrement. Eh bien, il faut aussi regarder les victimes autrement. Il faut qu'elles aient accès à cette justice, parce qu'elles en ont, elles ont été malmenées, elles ont vécu une vraie violence judiciaire. Il faut les entendre, et ces juges-là, normalement, sont censés prendre du temps, et donc il va falloir avoir plus de magistrats aussi.
Voilà, donc on verra effectivement en 2023 si tous les espoirs placés dans ce pôle, l'espoir placé par les familles, vous l'avez dit, vous l'avez redit, qui attendent depuis 20 ans, 30 ans dans la douleur, souvent des réponses à des disparitions inexpliquées, à des crimes inexpliqués. On verra si ce pôle, eh bien, se met véritablement en marche avec, pourquoi pas, des résolutions. Merci Corinne Herman, merci Franck Danerol, merci à toi Guillaume, pour être venu sur le plateau de Focus, nous parler du nouveau pôle Cold Case, créé par la justice française pour résoudre les crimes non résolus.